Europe Matin.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Bon réveil, youpi, c'est vendredi. On espère que vous êtes en forme, prêts à attaquer avec nous cette nouvelle journée, la dernière de la semaine. Enfin, on vous le souhaite en tout cas.
Oui, justement, voici ce qu'on vous propose comme bande originale de votre vendredi. Et oui, le groupe de musique instrumentale Jazz Funk fait une entrée fracassante sur la scène disco quand il recrute un chanteur en 1979. Ça, c'était le groove scintillant de Colin the Gang et la partition du groupe de Robert Bell à la toute fin de l'émission. Dans l'actualité, ce 24 juin, Fanny.
L'Europe qui tend les bras à l'Ukraine, ou presque. Hier, en tout cas, presque 4 mois, jour pour jour, après le début de l'offensive russe, elle l'a autorisé à candidater Kiev et désormais, comme de nombreux autres pays, dans l'antichambre de l'UE.
Réaction immédiate du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-Europe. L'avenir de l'Ukraine se retrouve au sein de l'UE.
Oui, mais rien n'est gagné. D'abord parce que cette étape peut durer des années. La Macédoine du Nord attend depuis 19 ans, par exemple. Ensuite, parce que l'Ukraine et la Moldavie ont sauté une étape clé du processus et vont devoir prouver qu'elles veulent, qu'elles peuvent se conformer aux exigences européennes. Bref, c'est pas pour demain et les questions autour de ces candidatures sont nombreuses. On les posera à 6h10 à Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Mais avant, Omblin, une belle image des chevaux au pied de la Tour Eiffel.
Oui, c'est le rendez-vous incontournable chaque mois de juin du Longines Paris Eiffel Jumping, un prestigieux concours de saut d'obstacles. Les meilleurs cavaliers du monde et leurs chevaux se retrouvent sur le Champ de Mars dès aujourd'hui jusqu'à dimanche.
Et on n'est pas obligé d'être cavalier ou spécialiste du monde équestre.
Non, bien sûr, on peut en profiter. Tout le monde peut en profiter. Au-delà d'apprécier la beauté du spectacle dans un lieu exceptionnel, le public peut profiter aussi des animations, des expos, être sensibilisé au bien-être des chevaux. Nous serons avec celui qui a été sacré champion à Paris, dans plusieurs épreuves. L'an dernier, le cavalier Édouard Lévy sera notre invité à 6h moins le quart. Voilà. Et avec sa jument et son cheval.
Ça sera au complet. Vous avez l'essentiel du programme. On commence avec la météo. Bonjour Valérie Darmon. On n'en a pas fini avec les orages.
Effectivement, dans la nuit, du sud-ouest au centre ainsi que sur le Grand Est, déjà le ciel a bien tonné. Et aujourd'hui, des averses se succèdent de l'Occitanie au nord-est ainsi que des orages sur la façade est dès ce matin et pour toute la matinée. À partir de la mi-journée, de la basse vallée du Rhône aux Alpes et au Jura, ces ondes orageuses peuvent être fortes. Elles s'accompagnent de grêles et de rafales de vent. Dans l'après-midi, le temps reste agité de la Provence à l'Alsace et à la Lorraine. Il faudra attendre le soir pour que le temps se calme. En bord de Méditerranée, quelques ondées subsistent encore. Sur la moitié ouest, des averses se produisent, mais les éclaircies reviennent dans l'après-midi par la pointe bretonne. Les minimales sont comprises entre 13 et 17 degrés en général, 18 à 22 sur les bords de la Grande Bleue. Les maximales affichent 18 à 21 sur la Bretagne, 22 à 26 sur le reste du pays et jusqu'à 30 dans le sud-est. À tout à l'heure.
Merci Valérie Darmon. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Un moment historique, l'Ukraine et la Moldavie officiellement candidates pour rejoindre l'Union européenne. Feu vert des 27 hier à l'unanimité à Bruxelles, qui pose tout de même leurs conditions pour une adhésion définitive qui devrait prendre des années. Récit de notre correspondante dans un instant. Elisabeth Borne sort du silence. Pour la première fois depuis la claque des législatives, la Première ministre a pris la parole. Très contestée jusque dans son propre camp, pas question de faire ses cartons. Et puis la ville de New York serait-elle le nouveau Far West? La Cour suprême autorise le port d'armes en pleine rue et sans motif, un mois après les tueries de Buffalo et Uvalde. Qu'en pensent les New-Yorkais? Reportage dans ce journal.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Un journal présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Il y a 4 mois, jour pour jour, l'Ukraine entrait en guerre. Et bien hier, la Moldavie et l'Ukraine sont devenues officiellement candidates à l'Union européenne après avoir obtenu le feu vert des 27 à Bruxelles. Un moment unique et historique. Salut Volodymyr Zelensky. Laura von Lerberg, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. C'est un pas de géant.
Oui, c'est le président du Conseil européen qui l'a annoncé en fin de soirée. C'est un moment historique, a-t-il déclaré. Ce feu vert envoyant un signal fort en pleine offensive russe sur l'Ukraine. Un résultat attendu par le pays et par son président Volodymyr Zelensky.
Aujourd'hui, vous avez pris l'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance il y a 30 ans. Cependant, cette décision ne concerne pas seulement l'Ukraine. C'est le plus grand pas vers le renforcement de l'Europe qui puisse être fait maintenant, à notre époque, et dans des conditions aussi difficiles. Alors que la guerre que mène la Russie met à l'épreuve notre capacité à préserver la liberté et l'unité.
Jamais l'Union n'a été aussi prompte à accorder ce statut, illustration de sa solidarité envers le pays. Mais l'Ukraine doit encore faire des efforts en matière d'état de droit, d'oligarques ou encore de lutte contre la corruption. C'est ce qu'a rappelé la présidente de la Commission européenne. Si ces objectifs ne sont pas atteints au bout de plusieurs années, les 27 pourraient retirer ce statut de candidat.
Merci Laura Van Lerberg, correspondante Europe 1 à Bruxelles. Le sommet européen doit être suivi d'un autre, du G7 et d'un troisième de l'OTAN, où il sera notamment question de l'aide financière accordée à Kiev.
Retour en France, Elisabeth Borne est enfin sortie des couloirs de Matignon hier.
Oui, pour aller dans un centre de commande nationale de gaz en région parisienne. La première ministre assure que nos stocks sont remplis à 59% contre 46% à la même date l'année dernière. Objectif 100% au début de l'automne. Situation davantage tenable qu'en Allemagne qui vient d'activer le niveau d'alerte, beaucoup plus dépendante au gaz russe que nous.
Elisabeth Borne qui s'est aussi exprimée pour la première fois depuis les législatives.
Attaquée de toutes parts depuis le scrutin, même dans son propre camp, la première ministre a répondu à ses détracteurs sur LCI. Hors de question de leur laisser le champ libre, elle compte bien s'accrocher, William Molinier.
Si Elisabeth Borne sait qu'elle a accepté un CDD à Matignon, elle compte jouer sa partition jusqu'au bout. Elle entend rester le chef d'orchestre du gouvernement et de la majorité. Et le bras de fer annoncé avec les députés ne l'impressionne pas.
Dans le précédent quinquennat, vous savez, quand j'ai porté la réforme de la SNCF, je peux vous assurer qu'il y avait déjà des gens qui étaient assez vocaux. Et ça ne me fait pas peur. Ça a plutôt tendance à me consolider, à me donner du calme quand j'entends des gens hurler autour de moi.
La première ministre s'attache à lisser son image de techno. Elle veut montrer qu'elle peut être aussi politique, ouverte à la négociation pour constituer une force de coalition et capable de rallier texte après texte les 37 députés qu'il manque à la majorité.
Le constat qu'on peut faire, c'est que les responsables politiques, aucun ne veut bloquer nos institutions. Au-delà, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de députés qui veulent que notre pays continue à avancer.
Elisabeth Borne continuera d'échanger aujourd'hui avec les représentants des groupes parlementaires. Elle sait qu'elle marche sur un fil, car les deux piliers de la majorité, Édouard Philippe et François Bayrou, ne la soutiennent pas. En clair, son défi désormais, c'est de convaincre non pas les Français, mais ses propres troupes.
William Molinier.
Il est 5h04 sur Europe 1. 7 départements sont encore en vigilance orange aux orages ce matin.
Oui, le Tarn, l'Aveyron ainsi qu'entre l'Ardèche et la Haute-Savoie. Des épisodes météorologiques, on le voit ces derniers jours, de plus en plus intenses. Alors pour faire face au changement climatique, l'Institut de l'économie pour le climat estime que la France devrait investir 2,3 milliards d'euros par an pour s'adapter aux inondations, aux canicules ou encore aux incendies.
On va aux États-Unis. Les États-Unis plus fracturés que jamais. Adoption cette nuit par le Sénat de la loi sur le contrôle des armes, alors que la Cour suprême vient purement et simplement d'annuler celle promulguée à New York il y a 3 semaines.
Deux Amériques s'opposent. D'un côté, ceux encore traumatisés par les tueries de Buffalo et Uvalde, et de l'autre, les grands défenseurs du deuxième amendement. Qu'en pensent les principaux intéressés ? Notre correspondant Alexis Guilleux leur a posé la question sur Times Square.
Sous les écrans géants, Sheila s'accorde une pause lecture new-yorkaise de naissance. Elle est ulcérée par la décision de la Cour suprême.
Nous n'avons pas besoin de plus d'armes. Nous n'avons pas besoin d'un débat là-dessus. C'est grotesque et ça me met très en colère.
La plus haute instance juridique du pays vient de balayer une loi vieille de plus d'un siècle qui a fait de New York l'un des États à la plus faible mortalité par arme à feu. Chez lui, en Caroline du Nord, John possède plusieurs pistolets et fusils et il admet ne pas comprendre le changement de législation.
Il y a beaucoup trop de monde à New York pour autoriser les gens à se balader armés librement. Il n'y a pas de biche ou de dinde à chasser ici, donc il ne devrait pas y avoir d'armes non plus.
Démocrate venue du Colorado, Catherine dénonce le culte des armes au sein de la Cour suprême qui oblige les Américains à s'adapter.
Je pense que vous devez avoir conscience que maintenant, peu importe où vous allez, vous pouvez être victime d'une fusillade. C'est effrayant. Ça n'empêche pas les gens de vivre, mais c'est toujours dans un coin de votre tête.
La chef de la police de New York a, elle, déjà prévenu. La loi n'a pas encore changé. Toute personne portant illégalement une arme sera immédiatement arrêtée. New York, Alexis Guilleux, Europe 1.
On remonte le temps sur Europe 1, 40 ans en arrière. Le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien devenait le premier Français à s'envoler pour l'espace.
Et à 84 ans, aujourd'hui, l'infatigable, passionné, ancien pilote de chasse travaille toujours, notamment pour la NASA. Et pour les 40 ans de cet événement historique, Jean-Loup Chrétien met aux enchères 150 objets qu'il a emmenés avec lui dans l'espace, estimés entre 30 et 20 000 euros. Mathieu Limongi l'a contacté pour Europe 1.
Il a encore des images plein la tête. Ce premier vol, Jean-Loup Chrétien s'en souvient comme si c'était hier.
Les moments passés avec les collègues, l'arrivée en orbite, le début du vol en apesanteur, le tour de la Terre en une heure et demie.
Une mémoire intacte qu'il a choisi de transmettre par les objets, un gant de combinaison spatiale, un blouson, une montre ou encore un carnet d'équipage. Tous ont voyagé avec lui dans l'espace. Pas question de les laisser à n'importe qui.
Je préfère savoir que ça part chez des collectionneurs. Quand il y en a, c'est assez réconfortant. J'ai assisté à des grosses déceptions d'offres d'objets qui repartaient dans des cartons et qui étaient oubliés.
Autre objet mis aux enchères, un orgue miniature, car avant de rêver d'espace, l'astronaute se voyait organiste dans les cathédrales. Alors, en 1988, pour son deuxième décollage, il emporte l'instrument avec lui et conjugue ses deux passions.
Ce petit instrument qui allait là-haut, c'était un symbole. Alors, c'était pas facile, je ne pouvais pas jouer grand-chose de sophistiqué. Donc j'avais improvisé sur le thème d'un Allegro spiritual, When the Saints Go Marching.
40 ans plus tard et 200 km plus bas, un air qui lui trotte encore dans la tête.
Mathieu Limongi, 150 incroyables objets de Jean-Loup Chrétien, premier français à aller dans l'espace, c'était il y a 40 ans, aux enchères. Ce sera demain à l'Hôtel Drouot à partir de 14h. Et puis pour les passionnés d'horlogerie, la Omega Speedmaster Moonwatch, la première à avoir été portée sur la Lune, fait partie des lots.
L'aventure d'ailleurs de Jean-Loup Chrétien dans l'espace est à revivre à 5h40 tout à l'heure dans le jour où avec l'or d'Autriche. Merci Alban pour le journal.
Il est 5h08 et ce sont les courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 710 Espace Winner. Longtemps éloigné des pistes, en raison de problèmes de santé désormais résolus, il n'a vraiment pas tardé à refaire surface et surtout renouer avec la victoire, comme ce fut le cas le 8 juin sur l'hippodrome de Laval, et la ténacité avec laquelle il s'est imposé me permet de vous affirmer qu'il n'aura aucune difficulté à doubler la mise, n'ayant certainement pas les gains en rapport avec ses moyens. Notez bien, pour ce soir sur l'hippodrome de Vincennes, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 10, Espace Winner.
Merci Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du quintet dans une demi-heure et dans un instant le pressing.
Europe 1. Fanny Marceau et Omblin Roche.
Bon vendredi matin sur Europe 1, 5h10, c'est l'heure des trois d'histoire du pressing avec nous Martin Lange, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Fanny, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour Martin, on commence avec les unes de vos journaux, ambiance Ghostbusters chez Libération ce matin, le quotidien titre Le fantôme de Matignon, Elisabeth Borne, première ministre discrète qu'Emmanuel Macron n'a pas mentionné une seule fois lors de son discours mercredi, un silence qui rend son avenir à la tête du gouvernement encore plus incertain. Des vols, des agressions, à Paris le retour des touristes, synonyme de montée de la délinquance. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Des pickpockets aux arnaques de faux billets de musée en passant par la vente à la sauvette. La police est à pied d'œuvre avec déjà une dizaine d'interpellations et un réseau démantelé début juin. Enfin, des vraies vacances. Des vacances à tout prix, titre La Croix ce matin. Cet été 2022, après 2 ans de pandémie, devrait être exceptionnel. Les réservations de séjour et de transport explosent. Leur prix aussi, parfois 2 fois plus cher qu'en 2019. Voilà pour les unes. Omblin, c'est à vous. Quel article avez-vous sélectionné ce matin?
Pour la première fois de son histoire, demain, les Restos du Cœur organiseront une journée portes ouvertes dans 18 villes afin de recruter de nouveaux bénévoles. À cette occasion, c'est le journal La Croix qui est parti à la rencontre de ceux qui ont décidé de se déplacer pour apporter de l'aide alimentaire aux familles ou aux personnes isolées, celles qui n'ont pas les moyens de se déplacer, ces personnes-là. Il faut savoir que le premier centre itinérant des restos a été créé en 1998 dans la Sarthe et que depuis, le mouvement s'est développé, surtout depuis 2017 et parfois, eh bien, ces centres itinérants ont vu le jour car l'association ne trouvait tout simplement pas de local et il en existe aujourd'hui 37 dans toute la France et 38 nouveaux projets seraient en cours. On prend donc la direction de l'Ain. À Saint-Rambert-en-Bugey, deux camionnettes se garent derrière l'ancien centre des pompiers, une grise louée à la supérette du coin, l'autre floquée du logo des Restos du Cœur. Les cinq bénévoles du jour en sortent, Josie, Claude, Michel, Bruno et Pascal. Ils installent leurs cajots de courgettes, de tomates, d'artichauts sur des tables pliantes. Ils préparent leur rayonnage de produits secs, le frigo à portée de main pour les viandes, les poissons et les laitages. Nathalie est une habituée, elle vit avec ses deux grandes filles dont l'une est handicapée et elle a droit à 18 points. Avec ça, elle va pouvoir tenir la semaine. L'histoire de Nathalie ressemble à celle de beaucoup d'autres. Employée dans une usine de meubles pendant 18 ans, elle a perdu son travail il y a 5 ans et elle tente de survivre avec le RSA. Elle ne peut pas se passer de l'aide alimentaire, sauf que le centre des restos le plus près est à 11 km de chez elle et qu'elle n'a pas de voiture. Autant vous dire que ce centre itinérant est une bénédiction. Les Restos du Cœur en itinérance contre l'isolement, c'est dans le journal La Croix. Et les journées, la journée portes ouvertes des restos aura lieu demain un petit peu partout en France. On recherche des bénévoles, n'hésitez pas à vous présenter. Toutes les infos sont sur le site des restos et il y a le programme aussi de la journée.
Le message est important et il est passé. Merci Ombline, la parole est à Martin.
Oui, avec une tombola géante ce matin, une tombola organisée par le gouvernement mexicain avec un gros lot exceptionnel, une villa d'une valeur de 4,3 millions d'euros et pas n'importe quelle villa, puisqu'il s'agit d'une villa ayant appartenu à un ancien narcotrafiquant décédé il y a 25 ans. Alors pour espérer l'emporter, rien de plus simple, il suffit d'acheter un billet de 100 pesos, moins de 10 euros, et d'attendre le tirage au sort qui aura lieu mardi prochain.
On sait qui c'est ce trafiquant de drogue, Martin ?
Oui, et ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous avez vu la série Narcos ? Alors, pas les premières saisons qui se passent en Colombie autour du personnage de Pablo Escobar, non, les dernières. Narcos Mexico. Alors, si oui, vous y avez découvert Amado Carrillo Fuentes, le patron du cartel de Juarez, l'un des plus puissants du Mexique. Il était surnommé le seigneur des cieux en raison de la flotte d'avions qu'il possédait pour faire transiter la cocaïne entre la Colombie et le Mexique. Alors, son manoir est situé dans un des quartiers les plus chics de la capitale, Mexico. Et pour 200 pesos, donc, vous en avez largement pour votre argent. 3 500 m², 9 chambres, donc 5 avec jacuzzi privatif, une piscine intérieure ou encore deux garages pouvant accueillir, attention, tenez-vous bien, 26 voitures. Wow. La propriété a été saisie par la justice mexicaine à la mort d'Amado Carrillo Fuentes en 1997 et mise aux enchères il y a 2 ans. Malheureusement, l'acquéreur n'avait pas été en mesure de fournir les 2,4 millions d'euros de la vente.
Mais pourquoi le gouvernement mexicain s'en débarrasse avec cette loterie ?
Eh bien, cette loterie nationale, elle a en fait deux objectifs. Premièrement, rendre aux Mexicains des propriétés et des terres ayant appartenu aux trafiquants de drogue et autres politiciens corrompus. En plus du manoir, les participants peuvent gagner 200 terrains dans l'état du Sinaloa, l'ancienne plaque tournante du trafic de drogue au Mexique, des terrains situés pour la plupart en bord de mer. Le deuxième objectif, il est de financer un barrage géant, toujours dans le Sinaloa, un barrage qui permettra d'irriguer les cultures de 2000 agriculteurs de la région et de fournir de l'électricité à près de 400 000 habitants. Des billets de tombola à 10 euros pour gagner la villa de luxe d'un narcotrafiquant, c'est à lire sur le site d'Ouest France.
Merci Martin pour ce dernier pressing d'ailleurs, oui, parce que c'est la semaine prochaine, Martin est au Tour de France.
Oui, merci beaucoup. Sur les routes du Tour, merci pour cette saison à nos côtés. Martin, on se retrouve bien sûr encore pour le journal des sports tout à l'heure, mais d'ores et déjà. Merci pour cette saison.
Merci à vous, c'était un réel plaisir.
Fanny, on conclut ce pressing avec vous.
Et oui, ce matin, je vous emmène en Guyane pour un voyage dans le temps de 1852 à 1953, près de 100 ans en somme. La Guyane, terre française d'Amazonie, a accueilli plus de 70 000 prisonniers hexagonaux, des voleurs, des assassins, des espions, des anarchistes, enfin tous les rebuts de la société française, bon débarras. Pour Napoléon III qui organise ces déportations, c'est une punition par l'exil et une rédemption par le travail, nous dit un historien. Rien dans le Figaro ce matin. L'idée de l'époque est simple, envoyer une main-d'œuvre gratuite aux colonies en nettoyant du coup les rues du vieux continent. Bon, sur le papier, pourquoi pas, mais s'il y en a une qui a souffert, c'est bien la Guyane. Encore aujourd'hui, l'image du territoire est écornée. Lointaine, humide, sauvage, un pays de bagnards et de grosses araignées, quoi. Alors que la Guyane, c'est un petit paradis vert, grand comme le Portugal, riche de ses cultures multiples, fascinant, et qui tente de faire de son triste héritage une force. Les îles du Salut, notamment l'île Royale, où se trouvait le site du bagne le plus important, se visite depuis des années et s'entretient, tant bien que mal, grâce aux investissements de l'État et de plusieurs associations et institutions. On peut entrer dans les cellules étroites, ressentir le malaise de ces hommes qui ne faisaient qu'attendre que les jours passent en transpirant. On peut encore voir le douloureux cimetière des enfants. Et puis au loin, sur l'île d'à côté, on aperçoit le toit de la maison de Dreyfus qui est classée. Quelques 200 km plus loin, à Saint-Laurent-du-Maroni, le camp de la transportation a tenté aussi de vivre avec son histoire et de réhabiliter les bâtiments en bibliothèque, en espace muséal. Saint-Laurent, c'est une ville pénitentiaire. Elle tente d'ailleurs d'être reconnue en tant que telle par l'UNESCO. Une ville née par et pour les prisonniers, où chaque détenu avait une mission, un travail quotidien. Aujourd'hui, chaque habitant a une histoire avec le bagne, un ancêtre qui y a travaillé. Le bagne, c'est une affaire de famille et la ville refuse de renier son passé. La Guyane, bel exemple finalement de résilience, terre de lumière, où le bagne sort de l'ombre. Deux pages passionnantes à lire dans Le Figaro et vous ce matin.
Merci Fanny. Je vous propose de terminer avec un mot sur le nouveau podcast Europe 1, Les Géants, une création originale d'Europe 1 Studio avec le journaliste Jacques Vendroux qui couvre quand même l'actualité du ballon rond depuis 50 ans. Ce podcast Les Géants, c'est vraiment le coup de cœur du petit matin. Ce sont 5 légendes du football, 5 histoires extraordinaires et notamment celle-ci racontée par l'ancien président du PSG, Michel Denisot.
Et à ce moment-là, j'ai avec moi Claude Leroy qui est directeur sportif, longtemps entraîneur d'équipe africaine et qui me dit « Ah, les marabouts m'appellent et tout ». Je dis « Écoute, camion de cierge à Lourdes, marabout, je prends tout ». Donc je rentre en contact avec Sidi, qui est marabout à Dakar. Ah ben voilà. Et il me dit « J'ai fait ceci, enfin je ne vous raconterai pas ce qu'il a fait ». Et là, je vois bien le résultat et vous allez gagner 5-0. Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, oui, c'est sûr ». Et il me dit même « Le quatrième but, c'est le numéro 18 à la 21e minute ». Très bien. Et il marque le quatrième but à une minute près et tout. On a gagné 5-0.
C'est pas incroyable, ça.
C'est génial comme anecdote.
Ahurissante. Cette histoire ahurissante. Lorsqu'il était patron du PSG, il fait partie des icônes du football qui se sont confiées à Jacques Vendroux. Le nouveau podcast original d'Europe 1, Les Géants, est à retrouver sur europe1.fr, l'application Europe 1 et sur toutes les plateformes d'écoute. Michel Denisot, déjà disponible. Laurent Blanc également, l'un des hommes qui a mené l'équipe de France sur le toit du monde en 1998.
Et on attend avec impatience le prochain épisode de
lundi
prochain.
Parce que c'est vraiment
tous
passionnant.
Tous les lundis, n'hésitez pas, europe1.fr.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h19 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Un moment historique salué par Volodymyr Zelensky. L'Ukraine et la Moldavie sont devenues hier officiellement candidates à l'Union européenne après un vote à l'unanimité des 27 à Bruxelles. Alors que l'armée russe continue de pilonner l'est du pays, selon le gouverneur régional de Lugansk, il reste 568 civils retranchés dans l'usine Azot de Severodonetsk. L'Allemagne qui peine à se passer du gaz russe. Niveau d'alerte activé. En France, nos stocks de gaz sont remplis à 59% contre 46% à la même date l'année dernière, selon Elisabeth Borne, qui fixe l'objectif à 100% pour le début de l'automne. À noter également pour nous, consommateurs, le prolongement du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année qui permet de limiter les hausses de prix de l'énergie pour une enveloppe estimée à 20 milliards d'euros sur l'année. Et puis, dernier jour pour les partis politiques qui ont jusqu'à ce soir pour déposer leur compte de campagne pour la présidentielle auprès de la Commission nationale des comptes de campagne.
Et ce sont à présent sur Europe 1 les initiatives en France, votre rendez-vous feel good. Et aujourd'hui, on passe un coup de fil à des agriculteurs, Fanny.
Oui, je compose tout de suite le numéro 0805 382 382. Allô ?
Oui, hein ?
Oui, bonjour Jérôme Regnault.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur, porte-parole du collectif Ici la Terre, à l'origine de ce numéro vert. Bon, je tombe sur vous aujourd'hui, mais en vérité, ce pourrait être n'importe lequel des quelques 100 agriculteurs qui ont accepté de répondre à ce numéro. À quoi sert-il ce numéro vert ?
Mais écoutez, ce numéro vert a pour but de mettre, comme vous êtes en train de le faire, un lien direct entre les Français et leurs agriculteurs sur tous les sujets de notre société actuelle. Ça peut être un sujet de voisinage quotidien ou ponctuel. Ça peut être une question générale d'économie ou de contexte agricole liée aux angoisses de consommation qui peuvent être aujourd'hui, liées au climat, liées à un voisin qui est en train de travailler le long de votre habitation et sur lesquels vous posez des questions. C'est-à-dire qu'il y a autant d'échanges qu'il y a d'appels.
Un numéro vert pour parler d'agriculture, c'est quand même une drôle d'idée. Comment elle est venue ?
Elle est venue d'un constat assez simple qu'on a fait entre agriculteurs, donc les porte-parole de ce collectif, où sur nos exploitations mutuelles, Nous avons constaté il y a un peu plus de 3 ans maintenant le fait que nous qui étions en relation directe avec nos voisins, avec des consommateurs, pour ceux qui font de la vente directe dans leur ferme, nous n'avions pas autant de problèmes que tout ce qui était repris médiatiquement à l'ordre de ce qu'on appelait l'agribashing. Tous les maux de notre société étaient de la cause agricole, les inondations, la pollution, etc., etc. Et puis on entendait des agressions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient matérielles, voire même physiques, auprès de certains de nos collègues. Et nous qui sommes vraiment dans un contexte périurbain, Fanny a une boutique de vente directe à sa ferme, Olivier accueille des chevaux, Damien fait de la cueillette à la ferme également, et moi qui suis dans une ville de 30 000 habitants et qui m'occupe d'une association de défense de l'environnement localement, on ne ressentait pas tout à fait ça. C'est-à-dire on ressentait ce poids global d'une image un peu méfiante, voire accusatrice parfois sur le métier de l'agriculture, mais dans la relation directe avec les agriculteurs, on retrouvait la confiance et la sérénité des échanges. Et alors que nous avons une pression, on va dire, sociétale d'habitants autour de nos exploitations plus forte que certains de nos collègues, ça se passait mieux. Donc on s'est dit, il y a tout à gagner dans ce rapport direct entre les Français et leurs agriculteurs, sans filtre. Vous appelez le numéro vert, vous tombez sur un agriculteur qui est en train de travailler sur son exploitation comme je suis en train de le faire. Il n'est pas derrière une centrale d'appel, il est vraiment comme si vous veniez le voir dans son bâtiment d'exploitation ou sur sa parcelle agricole. Et vous allez pouvoir échanger avec lui très naturellement sur tous les sujets. Il n'est pas là pour avoir des codes ou des choses exactes à vous dire. Il est là pour vous témoigner réellement, en toute sincérité ensemble, de quelle est la réalité vis-à-vis de votre inquiétude ou de votre question ou de votre soutien. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'appels juste pour nous soutenir dans des contextes parfois pas faciles. Il vous dit la vérité sur comment il vit ces choses-là au quotidien.
Et vous avez eu beaucoup d'appels depuis septembre 2019, date à laquelle vous avez mis en place cette ligne directe ?
Oui. Il y a beaucoup d'échanges. Alors, pour vous dire, c'est vraiment, vraiment la tendance au rythme de l'actualité. C'est-à-dire, l'actualité, je le disais, elle peut être très locale, c'est-à-dire, c'est le printemps, les tracteurs et, ce qui parfois interroge le plus, les pulvérisateurs ressortent en pleine. Donc là, des questions locales. Voilà, tiens, je vois l'agriculteur, comme je vous le disais, de l'autre côté du terrain de mon pavillon, travailler. Est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Etc., etc. Ou ça peut être d'ordre général, parfois sur les inquiétudes de climat, vous voyez. On a eu des épisodes pas faciles ces derniers jours avec des gros passages de grêle, donc on a des questions là-dessus. Ou évidemment de consommateurs. Donc pendant le Covid, beaucoup, beaucoup de relations sur la confiance sur l'agriculture locale. Et puis depuis le contexte de la guerre en Ukraine, les inflations des prix, voire même le manque de fournitures alimentaires quotidiennes. Donc là aussi, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'échanges en fait sur tout ce qui fait le quotidien de notre société.
Ma dernière question aujourd'hui, Jérôme, c'est est-ce que ça vous fait du bien à vous? Parce que ça répond effectivement à des questions des gens qui vous appellent, mais à vous, est-ce que ça vous fait du bien?
Oui, bien sûr, dans un échange, ce qui comptait de remettre en place, en fait, c'est cette confiance. Quand je vous parlais tout à l'heure que, parce qu'on nous accusait de tous les maux, on pouvait aller jusqu'à des agressions ou des choses comme ça, moi, les personnes qui ont fait ces agressions ne m'intéressent pas vraiment. Par contre, ce qui m'intéresse réellement, c'est les personnes qui, sur les réseaux sociaux, étaient presque prêts à cautionner les raisons de ces agressions. Et là, non, c'est pas possible. Quand vous faites un métier de passionné, quand vous êtes un professionnel, que vous êtes formé, on ne fait pas tout et n'importe quoi, et que vous avez l'occasion, et le numéro vert est là pour ça, de l'expliquer et de poser les choses ensemble, eh bien, on va se comprendre. Et se comprendre, c'est se respecter. On n'est pas là pour être toujours d'accord, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mot d'ordre obligatoire à expliquer, et on n'est pas là pour convaincre les gens. On est là pour se comprendre et donc mieux se respecter, mieux vivre ensemble. Et donc évidemment que ça nous fait du bien. Évidemment que j'espère qu'on est à la fois rassurant sur notre côté professionnel et très sérieux de nos métiers avec les gens qui nous entourent. C'est légitime de se poser toutes ces questions. On représente l'environnement des gens par l'outil de notre travail qui est la nature. Et on représente aussi leur santé par le rendu de notre travail qui est l'alimentation. Donc c'est légitime qu'ils se posent ces questions, à nous de les accepter. Et quand on se comprend beaucoup plus, bah nous aussi on le vit mieux. C'est-à-dire non, les agriculteurs ne sont pas aussi mal aimés que ça. Non, pendant les périodes de pression, et on l'a vu là aussi, un sujet difficile pour nous, l'ensemble des agriculteurs qui ont eu des cas de suicide, c'est très très lourd même pour nous collègues. point par point, et on a eu énormément de messages de soutien et de confiance sur l'importance qu'on avait dans la société française encore aujourd'hui. Donc oui, c'est un échange mutuel qui, j'espère, amène là aussi du bien à chacun.
Merci beaucoup Jérôme Regnault d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci.
Ça fait du bien à tout le monde. Je rappelle le numéro vert d'ici la Terre, 0805 382, deux fois. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h28, bon début de matinée sur Europe 1, à suivre le journal de Christophe Lamarre. Et puis c'est le retour du Longines Paris FL Jumping.
Oui, le prestigieux concours de saut d'obstacles, c'est l'une des destinations du circuit Longines Global Champion Tour. Les plus grands cavaliers du monde se donnent rendez-vous donc ce week-end sur le Champ de Mars. Parmi eux, notre invité, le champion français Édouard Lévy, il sera avec nous dans 15 minutes.
Et juste après, le retour des frères rappeurs Big Flo et Oli.
Oui, le nouvel album des Toulousains qui s'appelle Les Autres, c'est nous, sort aujourd'hui. Et c'est le choix de Stéphanie Loire, sa prescription musique dans 20 minutes.
Mais d'abord la météo, Valérie Darmon. Quel est le programme pour aujourd'hui, Valérie ?
Ça s'améliore un petit peu sur le front des orages. On n'a plus que 7 départements en alerte orange. L'Aveyron, le Tarn, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Mais on a un temps de plus en plus instable en journée qui s'installe au nord de la Loire. Ce matin, nuages et éclaircies qui alternent encore avec quelques ondées possibles en Champagne-Ardenne, au Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, en cours de matinée. Des averses qui se multiplient ensuite dans un ciel assez menaçant. Ces averses qui sont plus fortes en Normandie, en Champagne, dans les Ardennes et plus rares sur le bassin parisien, chassées sans doute par le vent qui souffle aux alentours de 40 km/h, un petit peu plus fort sur les côtes. Voilà pour le nord. En Nouvelle-Aquitaine, donc pour le sud, après les averses du matin, parfois soutenues, accompagnées de coups de tonnerre, les éclaircies vont revenir sur le littoral et au sud de la Garonne, mais on a là aussi des orages qui éclatent sur le Limousin. C'est sur l'Auvergne donc que le temps est plus instable toute la journée, d'où ces vigilances. En Rhône-Alpes également, et puis dans le sud-est, le temps qui est orageux. En Languedoc, seule la Côte d'Azur garde un temps clément et chaud, et les températures contrastées à l'image de ce matin à l'heure où on se parle, 24 à Toulon et au même moment 15 degrés à Brest.
Merci Valérie Darmon. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est l'heure de votre journal.
Europe 1.
Et à la une de ce vendredi, bataille pour une commission. La guerre fait rage entre la NUPES et le Rassemblement National pour décrocher la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale, poste prestigieux et stratégique. Dans ce journal, le masque va-t-il faire son grand retour dans les transports en commun ? Face à l'envolée des contaminations, certains médecins se prononcent pour, le gouvernement temporise. Enfin, la finale du top 14 de rugby, Castres-Montpellier ce soir à Saint-Denis, finale inattendue qui ne fait pas forcément rêver les amateurs de ballon ovale, vous l'entendrez.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Et le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. C'est l'autre casse-tête du moment pour le gouvernement. Quelle sera la couleur du groupe qui obtiendra la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale ? Poste clé et prestigieux, aux prérogatives importantes, il doit revenir à l'opposition. Deux formations s'affrontent, la NUP de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Victor Chabert, le RN, estime que la présidence lui revient de droit.
Exactement, avec 89 députés, le RN revendique d'être le plus important groupe d'opposition. Cette présidence de la commission des finances devrait donc lui revenir sur le papier, mais la NUPES déclare 131 députés et désire l'obtenir aussi. Sauf qu'en réalité, la NUPES n'est pas un groupe politique. Les socialistes, les verts, les insoumis et les communistes ont chacun leur groupe, mais ils se sont entendus pour ne présenter qu'un seul candidat. Avec l'addition des voix, ils pourraient donc l'emporter. Deux noms circulent, l'insoumis Éric Coquerel ou Valérie Rabault, ancienne présidente du groupe socialiste, est évoquée un temps comme possible première ministre d'Emmanuel Macron. Côté RN, c'est Jean-Philippe Tanguy qui a été choisi, un proche de Marine Le Pen, ancien directeur adjoint de campagne, diplômé de l'ESSEC de Sciences Po Paris, un profil décrit par ses pairs comme solide. Traditionnellement, les députés de la majorité ne prennent pas part au vote pour choisir ce poste dévolu à l'opposition et il n'y a pas de consigne claire du groupe LR pour l'instant. Les tractations s'annoncent intenses jusqu'à jeudi prochain, jour où les députés éliront le président de la commission des finances.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
Du côté de la majorité, on attendait la prise de parole d'Elisabeth Borne. La première ministre était sur LCI hier soir et elle n'a pas l'intention de démissionner.
Elle ne se pose même pas la question. Elisabeth Borne se dit confiante et guère impressionnée par l'hostilité qui pourrait se manifester dans l'hémicycle. Quant à engager sa responsabilité à l'issue de son discours de politique générale, ce n'est pas tranché, dit-elle.
Le sommet européen de Bruxelles, candidature validée pour l'Ukraine et la Moldavie.
La première étape vers la longue longue marche d'une adhésion. Moment historique, a dit sur Twitter le président ukrainien Zelensky. Cette accession rapide au statut de candidat officiel provoque la colère des pays situés dans la région des Balkans. La Serbie, la Macédoine du Nord ou encore l'Albanie attendent toujours une réponse positive de Bruxelles.
La guerre en Ukraine a sans doute joué un rôle dans cette accélération du calendrier. Autre conséquence, peut-être plus terre à terre, elle concerne le sort des réfugiés ukrainiens installés en France. Certains ont déjà trouvé du travail dans la restauration.
Et oui, le secteur, on le sait, manque cruellement de bras. Certains cafetiers se sont donc tournés vers les réfugiés pour leur proposer de travailler dans leurs établissements. Exemple à Templeuve-en-Pével, dans la région de Lille, avec Natalia, une mère de famille ukrainienne de 39 ans. Elle s'est déjà rendue indispensable. Reportage Genel Gougelot.
En un peu plus d'un mois, Natalia est devenue indispensable en cuisine.
Donc Natalia aide à la plonge, est un peu commis de cuisine pour éplucher les légumes, aider le chef et le second.
Une bénédiction pour Anne-Sophie Van Esbroek qui a embauché la jeune femme ukrainienne en urgence après la démission de son employée française.
Aide énormément précieuse car malheureusement depuis le confinement et le Covid, on ne trouve plus de personnel en cuisine.
Logée dans un centre d'accueil de la commune, Natalia ne parle ni français ni anglais. Et pour les tâches qu'on lui confie, cela ne pose aucun problème.
Non, grâce à Google Traduction, c'est nickel. Après, avec les mimes, les gestes, tout va bien, quoi.
Natalia n'en finit plus de remercier ses patrons. Ce travail 20 heures par semaine rémunéré au SMIC, c'est pour elle un premier pas pour son intégration et son efficacité a bluffé toute l'équipe, assure le chef Guillaume.
Elle se met debout sur le plan de travail, elle nettoie les plafonds, les sols. Franchement, pour nous, c'est un grand soulagement. Heureusement qu'on l'a.
C'est une belle personne, elle est toujours souriante, volontaire et elle rechigne pas du tout sur le travail, quoi.
Un autre poste en cuisine est encore à pourvoir et si d'autres candidates ukrainiennes se présentent, elles seront ici toujours les bienvenues. À Templeuve, Lionel Gougelot, Europe 1.
On l'avait rangé au rayon des souvenirs. Le Covid refait une apparition brutale dans l'actualité. Les contaminations s'envolent. La question d'un retour des restrictions se pose.
Près de 100 000 cas quotidiens selon Santé publique France. Une accélération réelle depuis une dizaine de jours. Sans que l'on sache s'il s'agit vraiment d'une nouvelle vague ou d'un simple rebond, une certitude, les hospitalisations repartent à la hausse. Dans la rue, il n'est pas rare de croiser des masques, simple réflexe ou anticipation des restrictions à venir. La question du retour du masque est effectivement posée. Yasmine Akatou.
Eh bien, Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui conseille le gouvernement, estime qu'il serait raisonnable de se couvrir le visage dans les transports en commun alors que l'épidémie repart à la hausse. Selon Antoine Flao, épidémiologiste à l'Université de Genève, il faudrait se masquer dans tous les lieux clos.
Le masque, il faut le voir comme un filtre. Si vous êtes dans une salle qui baigne de coronavirus et que vous portez un masque, peut-être vous serez infecté, mais vous serez beaucoup moins infecté que vos voisins qui ne portent pas de masque, parce que simplement, vous aurez beaucoup moins de particules virales qui rentrera dans l'arbre respiratoire. Le Covid que vous allez développer, il sera beaucoup moins sévère, vous aurez moins de complications.
Pour compléter la protection du masque, l'épidémiologiste met en avant une autre mesure, la vaccination des plus de 60 ans. Aujourd'hui, seulement un tiers des 60-79 ans les plus vulnérables ont reçu un second rappel. Alors dans les prochains jours, 8 millions de personnes éligibles à la quatrième dose vont recevoir un message de l'assurance maladie pour leur rappeler d'aller se faire vacciner.
Yasmina Katou, en Autriche, le gouvernement va mettre fin à la vaccination obligatoire. Il faut apprendre à vivre avec le virus, explique le ministre de la Santé autrichien. La journée s'annonce difficile dans les transports de la région parisienne. Jour poursuite de la grève des conducteurs et trafic très perturbé à la SNCF sur le Transilien et le RER. La ligne D sera la plus affectée, un train sur deux seulement aux heures de pointe.
Les amateurs de rugby sont prévenus. Les portes du Stade de France ouvriront d'ailleurs dès 17h pour assister à la finale du top 14 entre Castres et Montpellier.
Un final prévu à 20h45, ça laisse quand même de la marge et ça permettra aux indécis, eh bien quoi, de changer d'avis. Cette finale entre Castres et Montpellier a beau réunir les deux meilleures équipes de la saison régulière, elle ne fait pas trop rêver Axel May.
Oui, Castres et Montpellier sont réputés pour leur jeu basé sur la défense et le défi physique, loin du rugby champagne pratiqué par d'autres. Cette finale du top 14 n'est sans doute pas l'affiche la plus alléchante, la plus sexy. Une critique à laquelle répond ainsi Pierre-Yves Revol, le président Castres.
Vous voulez dire que ce n'est pas une affiche qui promet de grandes envolées? J'ai vu une finale l'année dernière entre deux équipes supposées très sexy. C'était le Stade Toulousain et La Rochelle. Et si ma mémoire est bonne, il n'y a pas eu un seul essai. Donc je crois qu'il faut considérer avec beaucoup de circonspection ces approches un peu caricaturales. Un match de rugby, nul ne sait comment il va se dérouler.
Capitaine de Montpellier, Yacouba Camara, le regard noir quand il est interrogé sur la qualité de cette finale.
On fait du rugby comme toutes les équipes, même si c'est pas beau à voir. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour faire des bons matchs de rugby. Même si c'est pas les demi-finales ou les finales espérées, nous on est très fiers d'y être et on mérite d'y être.
Castres et Montpellier s'étaient déjà rencontrés en finale il y a 4 ans et les Tarnais avaient remporté leur 5e et dernier titre de champion de France. Les Montpelliérains, eux, n'ont jamais encore décroché le bouclier de Brennus.
Axel May du service des sports d'Europe 1, Castres-Montpellier match à 20h45. Alors si la ligne D du RER promet d'être perturbée, le trafic sur la ligne B, lui, sera quasi normal.
Bon, il reste quand même une option.
Il reste quand même une option pour se rendre au Stade de France normalement.
Merci beaucoup Christophe Lamarre pour le journal Les Courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny, c'est en nocturne à Vincennes que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 trotteurs, tous âgés de 4 ans, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection les numéros 11 Ipalio, qui reste sur deux probantes deuxième place, annonciatrice d'une victoire à très court terme, et 16 Infiniment Citron, idéalement engagé et dont la parfaite condition physique est certaine, comme en témoignent ses deux dernières sorties à Enghien puis à Vichy. Ensuite, je vous recommande un télo de Chenu, le numéro 13, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification. Lui qui auparavant avait aligné pas moins de 5 bonnes performances depuis le début de l'année, avec Invictus du Doyer, le numéro 8, en forme lui aussi et dont j'ai entendu le plus grand bien le matin à l'entraînement. Enfin, les numéros 7, Invictus Madric, 10, Idaho Springs, 5, Inred et 6, Ibrek de Seyland compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 16, 13, 8, 7, 10, 5 et 6.
Des pronostics à retrouver sur europe1.fr sans attendre. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1. Il y a 40 ans, le 24 juin 1982, le premier Français effectuait un voyage dans l'espace. Anniversaire célébré aujourd'hui à Paris, au Centre National d'Études Spatiales. Cet astronaute, c'est Jean-Loup Chrétien. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Fanny, bonjour Omblin.
Sa première mission dans l'espace en 1982 va durer 8 jours.
Oui, Jean-Loup Chrétien part rejoindre la station spatiale Salyut 7. Sa mission s'appelle PVH, premier vol habité. Il décolle de la base spatiale de Baïkonour au Kazakhstan avec deux collègues russes. Découverte de l'apesanteur, du bleu de la Terre, du noir du cosmos. Le 1er juillet 82, une liaison est établie avec Jean-Loup Chrétien dans l'espace. Tendez l'oreille.
On est actuellement en plein centre de... On arrive en Mongolie, on va arriver au-dessus de la Mongolie actuellement. On a passé la France il y a 10 minutes à peu près.
Beaucoup de travail là-haut parce que l'objectif de la mission est d'abord de mener des expériences à bord. C'est la toute première fois, 12 expériences de biologie, de médecine que réalise Jean-Loup Chrétien. Un record, dit alors l'expert d'Europe 1 Bernard Chabert.
C'est une expérience scientifique absolument ahurissante qui vient d'avoir lieu. Ahurissante en ce sens que très rarement dans l'histoire de l'astronautique, on a pu assister au travail d'un équipage démarrant, disons, au quart de tour, de cette façon-là, sans perdre de temps.
Jean-Loup Chrétien reviendra sur Terre au bout d'une semaine.
Jean-Loup Chrétien fera ensuite d'autres vols lors sur la station Mir, notamment. Il fera au total 3 missions dans l'espace.
Oui, il avait 43 ans pour son premier vol dans l'espace, mais à 60 ans, il est atteint par la limite d'âge en France. La NASA aux États-Unis lui propose d'intégrer le corps des astronautes américains parce que, dit-il à l'époque, la France n'a plus rien à lui offrir.
Tout ce qu'on propose, c'est de rentrer chez moi et d'aller à la pêche à la ligne. C'est vraiment partir en claquant la porte. Désolé, merci de m'avoir fait voler l'année dernière, c'est très gentil. Au revoir, à bientôt. Donc la NASA m'a proposé de rester ici, de continuer donc ma carrière d'astronaute.
Il obtient la nationalité américaine, commence une nouvelle carrière avec le rêve de remonter là-haut et d'aller un jour sur Mars. C'est ce qu'il confie en 1999.
Là-haut, c'est un petit peu une drogue. Mais le grand rêve, c'est d'être martien. C'est le grand rêve de tous ici. Alors je ne pense pas qu'à 77 ans, on en verra un Français sur Mars. Mais qui sait, qui sait.
Jean-Loup Chrétien quitte finalement ses fonctions à la NASA plus tôt que prévu à la suite de la chute d'une caisse qui lui brisera les vertèbres. La planète Mars, 20 ans plus tard, on n'y est toujours pas et ce n'est pas pour tout de suite. Mais qui sait, peut-être dans 20 ou 30 ans.
Merci beaucoup peut-être. Merci beaucoup Lord d'Autriche. C'était le jour ouf. Dans un instant, direction le champ de Mars, les pieds sur terre, pour le concours d'obstacles Longines Paris Eiffel Jumping. À tout de suite.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h43 sur Europe 1. Bon réveil ce vendredi matin. Dès aujourd'hui, les plus grands cavaliers et chevaux du monde se retrouvent sur le champ de Mars. C'est l'événement chaque mois de juin, le Longines Paris Eiffel Jumping. On en parle avec le champion français et meilleur tricolore de l'an dernier. Bonjour Édouard Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est le rendez-vous pour les passionnés de saut et de performance, avec des obstacles pouvant aller jusqu'à 1,60 m de haut. Cependant, il n'est pas nécessaire d'être un expert en sport équestre pour apprécier la beauté du spectacle. Et on va y revenir. Mais d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous, Édouard Lévy, avant ce Longines Paris Eiffel Jumping?
Je suis dans un état d'esprit très, très motivé, aussi très heureux de pouvoir faire partie encore d'un bel événement comme le Longines Paris Eiffel Jumping. Étant parisien aussi d'origine, c'est un événement qui compte beaucoup pour moi. Et c'est vrai que l'année dernière avait été assez formidable, donc j'ai hâte d'y retourner.
Oui, alors vous faites partie des Français qui, une fois de plus, vont porter haut les couleurs de la France. Et puis, vous l'avez évoqué, cette performance l'an dernier. C'est une grosse pression sur vos épaules, les vôtres et celles de vos chevaux.
Non, je me mets pas trop de pression quant à ce qui s'était passé l'année dernière. C'est vrai que ça avait été un week-end assez incroyable où dans notre sport, c'est difficile de pouvoir gagner, vraiment être premier d'autant de compétitions en un seul week-end. Je vais y aller, disons, à fond. Et puis, si j'arrive pas à faire comme l'année dernière, faudra pas être déçu, mais je vais tout faire pour en tout cas.
Alors, comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu le déroulement de ce Longines Paris Eiffel Jumping.
Alors, il va y avoir des compétitions du vendredi au dimanche, des compétitions avec des hauteurs qui vont changer. Il y a un CSI, une étoile, qui va, être ouvert aux cavaliers, soit professionnels de la région avec un niveau plus faible que le 5 étoiles, soit des cavaliers amateurs. Donc ça, ce sont des hauteurs, d'1m30-35 m. Et ensuite, il y a le CSI 5 étoiles. Donc ça, c'est le très tout haut niveau, disons, dans notre sport. Et les barres montent de... les plus petites épreuves sont à 1m45 et les plus grosses sont à 1m60.
Et vous, on vous voit quand? Quand est-ce qu'on va pouvoir apprécier votre performance?
Alors moi, je vais monter le vendredi dans l'épreuve à 1m55 avec Uno de Cerisi, qui avait gagné le Grand Prix de la Ville l'année dernière. Il sera en repos la journée de samedi et il va ressauter le Grand Prix de la Ville de Paris le dimanche. Et ma jument Rebecca LS va sauter uniquement la journée de samedi, qui consiste à sauter les deux manches du Grand Prix du Global Champions Tour. En fait, le concours de Paris a la particularité de nous proposer deux Grands Prix de niveau 5 étoiles. Celui du samedi, qui est le Grand Prix du Global Champions Tour, et celui du dimanche, qui est le Grand Prix de la Ville de Paris.
Insistons sur le fait, Édouard Lévy, qu'on n'est pas obligé d'être cavalier ou spécialiste du monde équestre pour en profiter. Il y a bien sûr les épreuves et puis il y a tout ce qu'il y a autour.
Bien sûr, évidemment. Ce qui peut être chouette, c'est de découvrir un sport, de découvrir la hauteur des barres, de se rendre compte aussi la vitesse à laquelle il faut aller pour sauter ses obstacles et pour pouvoir gagner une épreuve. Et puis il y a évidemment tout ce qu'il y a autour, tout ce qui appartient au monde équestre, et tous les stands et toutes les expositions que propose le concours autour de la piste, oui. Et dans un cadre fantastique au pied de la Tour Eiffel.
Oui, voilà, justement, cette épreuve de saut d'obstacle sous la Tour Eiffel, des chevaux en plein Paris, c'est une chance de pratiquer votre sport dans un endroit si exceptionnel.
Tout à fait, on a de la chance de pouvoir en effet pratiquer dans un endroit mythique au pied de la Tour Eiffel, comme ça c'est juste magique. Quand on regarde après nos vidéos ou les photos après le concours, pendant le concours, sincèrement, on s'en occupe pas. On est sur notre performance, sur notre piste et on s'occupe de réaliser notre sport. Mais après, lorsqu'on regarde soit des vidéos, soit des photos, on se rend compte, on se dit, bon, voilà, on regarde où est-ce qu'on est et ce qu'on est en train de faire. C'est juste magique. On a la chance que la ville de Paris propose de magnifiques événements tout au long de l'année et c'est vrai que c'est un plaisir à chaque fois.
Ce Longines Paris Eiffel Jumping est l'une des destinations du circuit Longines Global Champions Tour. Les spécialistes savent de quoi on parle ici. L'an dernier, vous avez été sacré champion à Paris dans plusieurs épreuves. On l'a dit à plusieurs reprises avec vos deux chevaux, Rebecca LS et Uno de Cerisi. Il vous accompagne à nouveau Bien sûr, ça veut dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne.
Bah, disons que voilà, j'ai un peu réfléchi comme ça. Je me suis dit, bon, au moins, je n'aurais pas de regrets, j'aurais pris les deux mêmes. Et ils sont tous les deux très en forme. Rebecca revient de week-end très victorieux à Saint-Tropez dans un niveau 5 étoiles, également dans le Grand Prix de la ville de Cabourg qui était très relevé. Et Uno revient d'une très belle performance en Pologne avec l'équipe de France. Donc les deux chevaux sont en forme. Voilà, maintenant la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain, mais en tout cas, j'ai mis toutes les chances de mon côté, disons.
Vous avez arrêté vos études, Edouard Lévy, après le bac. Vous vous êtes consacré à l'équitation. C'est un milieu difficile, physique, avec des réveils très tôt, des tâches quotidiennes pénibles, peut-être pour le commun des mortels. Vous ne regrettez rien, j'imagine, surtout lorsque vous regardez votre parcours.
Oui, bien sûr, je ne regrette rien. Ça a été une période assez... assez charnière en tout cas, parce que voilà, moi issu du milieu parisien qui a été complètement tracé pour une école de commerce ou une école de droit, et puis tracé une vie, disons, plus dans les clous. Voilà, partir en campagne, en Normandie avec les chevaux, puis ensuite en Allemagne, aux États-Unis, etc., etc. Ça a été évidemment un bon changement de direction dans ce qui était à peu près prévu. Évidemment, je ne regrette rien, c'est une vie extrêmement... extrêmement riche en découvertes, riche en voyages, riche en émotions. L'équitation, c'est aussi un sport qui demande une grosse humilité, parce que lorsque on est toujours avec un animal, donc même si nous on est en forme, l'animal peut l'être un peu moins, si lui est en forme, nous on peut l'être un peu moins, donc enchaîner les victoires, c'est vraiment difficile, donc on apprend très souvent à être en haut et un peu en bas également, à des périodes extrêmement proches. Donc on doit toujours garder les pieds sur terre, toujours être très vigilant à notre évolution, l'évolution de nos chevaux. Donc je trouve que c'est aussi une belle leçon de vie.
Et on vous retrouve dès aujourd'hui et tout ce week-end à Paris, au Longines, Paris Eiffel Jumping, qui prend donc ses quartiers sur le Champ de Mars au pied de la Dame de Fer. Merci beaucoup Edouard Lévy d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je vous souhaite bonne chance bien
Avec
sûr
plaisir.
Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.
C'est très gentil, merci à vous. Bonne journée.
Europe Matin. Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h50, le journal permanent, Alban Le Prince.
Une étape hautement symbolique. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont accordé hier à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidate. Une adhésion qui pourrait prendre des années et soumise à certaines conditions. Elisabeth Borne ne se pose pas de questions sur son avenir à Matignon. Déclaration de la Première ministre hier soir qui assure ne pas savoir si elle engagera sa responsabilité le 5 juillet lors de la déclaration de politique générale. En attendant, elle s'entretient aujourd'hui encore avec les présidents des groupes parlementaires. Mouvement de grève aujourd'hui sur certaines lignes de RER et Transilien pour réclamer des hausses de salaire. Notamment, il ne devrait pas trop impacter le RER B qui dessert le Stade de France pour la finale du top 14 qui opposera Castres à Montpellier à partir de 20h45.
Bon début de matinée sur Europe 1. Le vendredi, c'est musique avec Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous. Bonjour Fanny. Bonjour Omblin.
Aujourd'hui, le nouvel album d'un duo de frangins originaire de Toulouse, les rappeurs Big Flo et Oli.
Big Flo et Oli, c'est un duo à la prose affûtée, au succès indéniable et à la carrière déjà bien tracée. Leur rap séduit autant les parents que la nouvelle génération.
Ah, il aurait dû y aller.
Dommage, un titre qui figure sur leur deuxième album intitulé La Vraie Vie, publié en 2017 et qui cumule à ce jour près de 250 millions de vues sur YouTube. Les frères sont passés par le conservatoire, ils ont été adoubés par Orelsan et Ayam et ils sont les auteurs d'un rap à l'ancienne basé sur la qualité des textes, la rime et la maîtrise des instruments. Big Flo et Oli, c'est un hip-hop à l'opposé du style gangsta, loin du triptyque fête, fric et filles. Après une pause de 2 ans, les frères toulousains publient aujourd'hui un nouvel album, Les Autres C'est Nous, qui contient ce titre avec MC Solar, Bons Élèves. Je vous propose un petit extrait en guise de mignardise et dans quelques instants, vous l'écouterez en entier.
Mais les plus narcissiques sont chez le marchand de glace.
Dis-moi pour qui j'écris, entre vous et moi, une fine ligne. En vérité, je porte mon humilité comme un bling bling. Ai-je raison de lutter contre le temps comme un grand têtu ?
Bons élèves, un texte dans lequel les frangins dressent leur autocritique portée par un élégant clip en noir et blanc dans lequel ils s'affichent sans artifice. Comme pour dire à leur public, ceux de leur âge, qu'on peut s'accepter tel que l'on est avec ses imperfections, même à l'heure des filtres Instagram et de Photoshop. Parmi les rencontres de prestige sur cet album, celle avec l'une des figures emblématiques de la chanson française, un artiste discret qui vit loin du tumulte médiatique du côté d'Astafort dans le sud-ouest, Francis Cabrel.
Qui a dit qu'il en fallait quatre? Qui a dit qu'il en fallait?
Un disque que le duo a laissé maturer entre Toulouse, Barcelone et Los Angeles, où ils ont pris le temps de faire un pas de côté, en dehors du tourbillon dans lequel ils étaient plongés. Avec cet opus, Big Flo et Oli évoquent leurs doutes et leur cheminement. Très attachés à leurs racines argentines de leur père, musicien de salsa, on y retrouve des sonorités latines.
J'étais pas là, mais j'ai rien raté, mais j'ai rien raté. J'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé?
Les autres, c'est nous, contient un autre featuring avec Julien Doré sur le titre Coup de vieux, un titre qui nous rappelle qu'on est tous le vieux de quelqu'un, même quand on est né en 1993 et 1996, comme Big Flo et Oli.
C'était mieux avant, remonter le temps, premier cheveux blanc.
Leur prochaine tournée, elle démarre à l'automne prochain. Une tournée de plus d'une vingtaine de dates à travers la France. Ils ont choisi la proximité avec leur public. La plupart des lieux dans lesquels ils vont se produire les ont vus débuter en live. Une manière de remercier ceux qui les ont suivis dès le début. Je vous donne quelques dates. Ils commencent par l'Accor Arena pour une release party. Ce sera le 24 juin. Ils seront à Paris à la Maroquinerie le 29 septembre 2022 et à Joux-les-Tours le 7 octobre. Allez, chose promise, chose due. On écoute en entier, s'il vous plaît, sur Europe 1. Bons élèves, Big Flo.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h58, bon début de matinée à suivre votre invité Fanny.
Et Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Avec elle, on tentera de mieux comprendre la candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne. Candidature actée depuis hier après une procédure accélérée compte tenu de la guerre. Candidature décriée aussi par certains pays. Candidature qui pourrait amener pas mal de désillusions. On en parle à 6h10 et puis on écoutera votre partition Omblin.
Leur musique était uniquement instrumentale, un répertoire jazz funk, mais ça, c'était avant 1979. Colin de Gang recrute un chanteur et se met à enchaîner les succès. La partition en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1 avec la météo de Valérie Darmon.
Bonjour. Il est entre 2 et 6 heures du matin. Et si vous m'écoutez, c'est que vous faites partie de la famille des Lefteaux. Et comme plein de Lefteaux, vous êtes artisan ou commerçant au volant de votre utilitaire, réfléchissant à tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui et vibrant au rythme des ronflements du moteur. Alors que vous pourriez au moins vous épargner ça au réveil. Oui, ça, les vibrations et le bruit du moteur, en passant à l'électrique. L'électrique, tôt ou tard, vous y viendrez. Alors autant le faire très tôt, avant tout le monde.
Toute la gamme utilitaire Peugeot existe en 100% électrique. Europe 1.
La météo, Valérie Darmon, quel temps pour ce week-end?
Alors déjà, moins de départements en alerte orange orage. Actuellement, il y en a 7, du centre à la façade est. Et après la chaleur et les orages de cette semaine, c'est un flux océanique perturbé qui va s'installer pour tout le week-end, ce qui va donner une France coupée en deux, avec du chaud et du beau à l'est et un ciel variable à l'ouest. Et ça commence d'ailleurs aujourd'hui, avec un petit peu de pluie sur la façade ouest et des orages sur la façade est. Samedi, impression plus automnale qu'estivale, avec des averses et du vent modéré sur l'ouest de la France et la moitié est qui conserve encore du beau temps chaud et orageux.
Et dimanche?
Même configuration, le temps instable, assez frais persiste sur l'ouest et le temps ensoleillé et assez chaud pourrait se maintenir à l'est avec beaucoup d'orages à prévoir toujours, mais moins que ces derniers jours et les températures seront donc très contrastées dans ce contexte.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Il est 6h sur Europe 1. Bon réveil à tous. L'été de tous les records. Après 2 ans de Covid, vous serez très nombreux à partir en vacances. Les réservations d'écoles et les prix aussi. Transport, hébergement, on fait le point dans un instant. Elisabeth Borne demandera-t-elle la confiance des députés la semaine prochaine? La Première Ministre n'a pas encore pris sa décision malgré les demandes de l'opposition. Et puis nous irons à New York dans ce journal où la Cour suprême vient d'autoriser les habitants à sortir de chez eux armés, tollés du côté des habitants, encore meurtris par les tueries de ces dernières semaines.
Europe Matin.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Le journal de 6h avec Romane Hoquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Courage, 13 jours, allez, même pas 2 semaines. Voilà ce qui nous sépare du début officiel des vacances. Jeudi 7 juillet pour les écoliers et la saison touristique s'annonce d'ailleurs exceptionnelle.
Et d'ailleurs, les réservations s'emballent.
Oui, location de voitures, trains, déjà 8 millions de billets SNCF vendus. C'est 10% de plus par rapport à l'été 2019, le dernier sans Covid. Et côté hôtellerie, Geoffrey Branger, quelle est la tendance ?
Alors ça cartonne, c'est d'ailleurs déjà difficile de trouver des hébergements dans certaines régions comme en Corse, sur la Côte Basque ou encore en Bretagne. 90% des gîtes de France par exemple sont réservés. Pour les villages vacances Bellambra, les établissements sont déjà bien remplis. Alexis Gardy, le président du groupe.
On est très confiant pour cet été. On est aujourd'hui à un peu plus de 70% d'occupation sur juillet et un peu plus de 60% sur le mois d'août. Donc la dynamique est très bonne, il est temps de réserver.
Du côté du Club Med, tous les hôtels sont complets, que ce soit en France ou en Afrique du Nord. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'inflation, les Français vont tenter de réduire la facture. Alors les réservations explosent dans les campings, souvent plus économiques. Mais avec cette très forte demande, les prix augmentent, comme l'explique Alain Calmet, le président du groupe Omer.
Cette année où les tarifs montent, il y a beaucoup de demandes. On est presque plein et dans certains endroits, ça va être à peu près la même chose que l'an dernier, mais dans d'autres, ça peut atteindre plus 10%.
Alain Calmet, président du groupe Omer, contacté par Geoffrey Branger. Des prix en hausse et le budget des Français en baisse. Moins 8% cette année, selon une enquête CSA Research.
Et pour ceux qui prendront l'avion, eh bien, gare à la pagaille dans les aéroports.
Oui, et ça commence dès ce week-end avec un appel à la grève du côté de la compagnie Ryanair. Le personnel navigant est appelé à rester sur le tarmac samedi et dimanche. Mobilisation aussi des syndicats de pilotes d'Air France et Transavia dès demain. Des perturbations aussi à prévoir du côté des transports en Île-de-France. France ce vendredi. Grève sur la quasi-totalité des RER et certaines lignes de Transilien aujourd'hui et demain.
Il est 6h02 sur Europe 1. Comment élargir la majorité présidentielle ? Casse-tête posée à Elisabeth Borne. La première ministre s'entretient aujourd'hui avec les présidents des groupes à l'Assemblée nationale.
Une guerre des nerfs où la chef du gouvernement est en première ligne. Elle était d'ailleurs l'invitée hier soir du plateau de LCI. La fin de son silence depuis le résultat des législatives. L'occasion de se défendre aussi face aux critiques de l'opposition. William Molinier.
Si Elisabeth Borne sait qu'elle a accepté un CDD à Matignon, elle compte jouer sa partition jusqu'au bout. Elle entend rester le chef d'orchestre du gouvernement et de la majorité. Et le bras de fer annoncé avec les députés ne l'impressionne pas.
Dans le précédent quinquennat, vous savez, quand j'ai porté la réforme de la SNCF, je peux vous assurer qu'il y avait déjà des gens qui étaient assez vocaux. Et ça ne me fait pas peur. Ça a plutôt tendance à me consolider, à me donner du calme quand j'entends des gens hurler autour de moi.
La première ministre s'attache à lisser son image de techno. Elle veut montrer qu'elle peut être aussi politique, ouverte à la négociation pour constituer une force de coalition et capable de rallier texte après texte les 37 députés qu'il manque à la majorité.
Le constat qu'on peut faire, c'est que les responsables politiques, aucun ne veut bloquer nos institutions. Au-delà, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de députés qui veulent que notre pays continue à avancer.
Elisabeth Borne continuera d'échanger aujourd'hui avec les représentants des groupes parlementaires. Elle sait qu'elle marche sur un fil, car les deux piliers de la majorité, Édouard Philippe et François Bayrou, ne la soutiennent pas. En clair, son défi désormais, c'est de convaincre non pas les Français, mais ses propres troupes.
William Molinier, Elisabeth Borne, qui a aussi affirmé, je cite, qu'elle ne se posait pas de questions sur son avenir à Matignon. La chef du gouvernement, pas certaine non plus de solliciter la confiance des députés.
Et pendant qu'Elisabeth Borne mène la bataille parlementaire, Emmanuel Macron, lui, poursuit son marathon diplomatique.
Le chef de l'État encore à Bruxelles aujourd'hui, suite du sommet des 27. Hier, les leaders européens ont validé la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Feu vert aussi pour la Moldavie. 6h04, le Sénat américain valide cette nuit le projet de loi sur le contrôle des armes à feu, texte porté par les démocrates et les républicains, une première depuis presque 30 ans.
Et marche arrière en revanche du côté de la Cour suprême, la juridiction vient d'annuler une législation sur le contrôle du port d'armes dans l'État de New York.
En clair, les jurés autorisent les habitants à sortir de chez eux armés et sans motif légitime. Tollé du côté des habitants de New York, pour eux, cet arrêt risque de transformer la ville en Far West. C'est ce qu'ils ont expliqué à notre correspondant Alexis Guilleux.
Sous les écrans géants, Sheila s'accorde une pause lecture new-yorkaise de naissance. Elle est ulcérée par la décision de la Cour suprême.
Nous n'avons pas besoin de plus d'armes. Nous n'avons pas besoin d'un débat là-dessus. C'est grotesque et ça me met très en colère.
La plus haute instance juridique du pays vient de balayer une loi vieille de plus d'un siècle qui a fait de New York l'un des États à la plus faible mortalité par arme à feu. Chez lui, en Caroline du Nord, John possède plusieurs pistolets et fusils et il admet ne pas comprendre le changement de législation.
Il y a beaucoup trop de monde à New York pour autoriser les gens à se balader armés librement. Il n'y a pas de biche ou de dinde à chasser ici, donc il ne devrait pas y avoir d'armes non plus.
Démocrate venue du Colorado, Catherine dénonce le culte des armes au sein de la Cour suprême qui oblige les Américains à s'adapter. adapté.
Je pense que vous devez avoir conscience que maintenant, peu importe où vous allez, vous pouvez être victime d'une fusillade. C'est effrayant. Ça n'empêche pas les gens de vivre, mais c'est toujours dans un coin de votre tête.
La chef de la police de New York a, elle, déjà prévenu, la loi n'a pas encore changé. Toute personne portant illégalement une arme sera immédiatement arrêtée. New York, Alexis Guilleux, Europe 1.
Fanny, Omblin, voilà qui va peut-être vous rappeler quelques souvenirs d'adolescente.
Ah. Est-ce qu'on peut chanter ?
Oui, bien sûr, c'est permis. Fanny qui vient de nous mimer la scène évidemment mythique de Titanic. Est-ce que j'ai vraiment justement besoin de préciser le film dont je vais vous parler, Titanic, mais cette fois sans Leonardo DiCaprio. Ah. Alors, rassurez-vous, attendez, ne paniquez pas. Là, je vais vous parler d'une pièce délirante qui joue en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris. Titanic, la folle traversée, c'est le titre de cette parodie du film de James Cameron, raconté par Naïma Bencheman.
Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue à bord du Titanic.
Le Théâtre de la Renaissance est transformé, encombré de bagages, de bouées de secours, de marins qui contrôlent les billets des spectateurs directement embarqués à bord du Titanic, comme le voulait Axel Drey, le metteur en scène de la pièce.
Un jour, je suis tombé sur le célèbre film que tout le monde connaît, du Titanic de James Cameron, et je me suis dit qu'il y avait une matière à faire une adaptation assez originale, transformer la tragédie en comédie. C'était un challenge intéressant. C'est une sorte de gros hôtel flottant, ce paquebot. Donc, il peut y avoir beaucoup de cabines, de portes qui claquent, et ça s'y prêtait très très bien.
Une succession de scénettes portées par une bande de 12 acteurs délurés, ça chante, ça danse, ça tangue dans cette version humoristique de Titanic.
Les icebergs aperçus sur la route de Notre-Dame.
Les icebergs ?
Non !
Tout va bien.
C'est une comédie, on rit beaucoup, mais on essaye de raconter ce qui s'est réellement passé aussi. On n'élude pas le drame, on le raconte, on essaye de le faire ressentir aux spectateurs.
Paris osé mais réussi, à la fin de la pièce, on ne verse pas une larme, le rideau se ferme avant que le bateau ne coule.
Voilà le Titanic, mais sans les mouchoirs à la fin. Donc ça s'appelle La Folle Traversée. C'est jusqu'au 3 septembre au Théâtre de la Renaissance à Paris.
Merci beaucoup Romain Oquet pour le journal de 6h. Il est 6h08 et c'est le journal des sports de Martin Lange. Martin, on commence avec la finale du top 14 ce soir. Castres-Montpellier.
Oui, une véritable opposition de style entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. D'un côté, Castres, le petit poussé, 40 000 habitants, mais une ville qui vit et respire pour son club de rugby. L'entraîneur des arrières, David Daricarrière.
Une ville qui bat pour le CO, qui vit pour le CO, et cet engouement fait que ça vous entraîne, quoi. Nous, on essaie justement de les rendre heureux, de les rendre fiers. C'est ça, ce lien fort qui nous lie avec ses supporters et avec les habitants en général, quoi.
De l'autre côté, un Montpellier, le géant soutenu par l'une des plus grandes fortunes de France, Moed Altrad, avec sa ribambelle d'internationaux comme l'ancien capitaine des Bleus, Guillaume Guirado, qui rêve d'un deuxième titre avant de ranger les crampons.
Je vais pas forcément parler de moi en tant que joueur en 2009 parce que j'étais un jeune garçon et tous les joueurs ont joué un rôle important. C'est ça de jouer une finale, c'est de représenter une équipe, un club et une ville et un peuple.
Guillaume Guirado au micro d'Axel May, Castres-Montpellier, c'est à suivre en direct et en intégralité ce soir dans Europe 1 Sport.
Un mot de football, Martin, et c'est déjà la reprise.
Oui, les trois clubs promus en Ligue 1, Toulouse, Ajaccio et Auxerre, ainsi que Strasbourg, ont repris le chemin de l'entraînement hier. En Ligue 2, en revanche, ça commence mal pour Saint-Etienne. Fraîchement relégué, les Verts vont débuter la saison avec 3 points de moins et 4 matchs à huis clos. Conséquence des incidents après la défaite en barrage contre Auxerre le 29 mai dernier.
En file outre-Atlantique avec la draft NBA.
Oui, la sélection des meilleurs jeunes basketteurs par les franchises américaines. Cette nuit, c'est l'italo-américain Paolo Banchero qui a été choisi en premier par les Orlando Magic. Belle surprise côté français avec le 11e choix pour Ousmane Dieng, sélectionné par New York. Le jeune ailier a été transféré dans la foulée à Oklahoma City. Mais comme souvent en NBA, le spectacle était aussi en tribune avec un invité de marque. J'ai nommé Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, grand supporter des Lakers. Écoutez.
Mon équipe préférée, ce sont les Lakers.
Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire cet été ?
Ah, je crois qu'ils vont changer beaucoup de choses. Ils ont déjà changé le coach et j'espère qu'ils gagneront un nouveau titre la saison prochaine.
Enfin, en bref, Martin.
Du cyclisme et un tout nouveau champion de France du contre-la-montre, Bruno Armirail, le coureur de la Groupama FDJ, qui évacue ainsi la frustration de sa non-sélection sur le Tour de France. Et puis, pas de nouvelle médaille hier au Mondial de natation. On suivra ce soir les finales de Mélanie Hennick et Marie Wattel sur 50 mètres papillon et de Maxime Grousset sur 50 mètres nage libre.
Merci beaucoup, Martin Lange, et merci pour ces journaux des sports toute l'année. On vous retrouve dans quelques jours
pour le journal du Tour.
Sur les routes du Tour de France, bien sûr, sur Europe 1. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on se posera la question. Bonne idée ou poudre aux yeux? Projet viable ou voué à l'échec? L'Ukraine va-t-elle vraiment pouvoir intégrer l'UE? Et si oui, quand? Depuis hier, elle est en tout cas candidate. Une procédure accélérée qui pose 1000 questions. Pascale Joannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, y répond dans quelques minutes.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Excellent début de matinée à l'écoute d'Europe 1. C'est un jour historique pour l'Ukraine. Hier, l'Union européenne a entériné sa candidature.
Bonjour Pascale Joannin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. On va essayer avec vous de comprendre ce qu'implique cette candidature et d'abord ce qu'elle signifie. Qu'est-ce que ça veut dire être candidat à l'Union européenne aujourd'hui ?
D'abord, c'est une demande qui est faite par un pays qui doit être en Europe géographiquement, qui doit être une démocratie, qui doit avoir un système économique qui est plutôt stable et qui s'engage à respecter tout le corpus juridique que l'Europe a développé depuis sa création, donc c'était en 1950, et qui donc veut faire partie de cet ensemble et donc de respecter surtout les valeurs qui sont celles qu'elle porte. Et le choix qu'a fait hier le Conseil européen, c'est de dire, on vous donne un signal politique, vous n'êtes pas prêt, mais on voit que vous avez envie de venir, vous êtes en guerre, vous êtes agressé. Eh bien bon, c'est le début d'un processus, ça va pas être facile, mais on vous donne le ticket d'entrée dans ce club que vous rejoindrez peut-être un jour si, en effet, vous vous engagez bien à faire toutes les réformes qui sont nécessaires.
Bon, l'Ukraine entre quand même dans un très très long couloir. On voit par exemple la Macédoine du Nord, ça dure depuis presque 20 ans. Les pays attendent très très longtemps pour intégrer véritablement l'Union européenne et sont même pas sûrs finalement d'y arriver à la fin. Pourquoi l'Ukraine tenait à faire cette démarche et puis quelle était l'urgence aujourd'hui en pleine guerre? Ça fait 4 mois aujourd'hui que l'offensive russe a démarré.
Eh bien oui, mais là, il y a 4 mois, l'offensive a démarré. Et 4 jours après, l'Ukraine, suivie de 2 autres pays, la Moldavie et la Géorgie après, ont fait acte de candidature en disant, voilà, nous, on veut rejoindre l'Union européenne. Et c'est en ça, peut-être, que vous parliez tout à l'heure de processus accéléré. Ça a été un processus accéléré pour reconnaître ce statut de candidat qui prend plusieurs années, normalement, 2 ans environ. Là, on a mis 4 mois parce qu'il y a une urgence, parce que c'est la première fois qu'il y a une guerre sur le continent européen, d'un État qui en agresse un autre, et que donc l'Union européenne, son cœur a saigné en voyant des gens qui, parce qu'ils voulaient rejoindre le camp occidental, se sont fait agresser par un pays qui ne veut pas que ce territoire aille vers l'Europe et veut le garder en son sein contre son gré. Et donc c'est un signal plus symbolique et politique qui a été donné qu'autre chose pour justement lui dire, voilà, nous on vous soutient dans ce combat pour des valeurs européennes.
Et dans les faits, ça ne change rien au soutien qu'on peut potentiellement leur apporter militairement ou dans les faits sur le terrain.
Ah, tout à fait, c'est très symbolique, ça ne déclenche pas non plus le début des négociations, il va falloir en effet que ça vienne plus tard. Vous parliez tout à l'heure de la Macédoine dont la candidature est en effet difficile parce que d'abord il y a des États qui se sont opposés à la Macédoine à cause de son nom. Aujourd'hui, il y avait encore la Bulgarie le gouvernement vient de tomber. Il semblerait que donc il y ait moins d'opposition et ça va pouvoir peut-être débuter, mais voilà, c'est pas parce que vous êtes candidat que tout devient magique tout d'un coup. J'allais dire, le plus dur commence, parce que à partir de maintenant, et l'Ukraine n'est pas en mesure de le faire maintenant, parce qu'elle est en guerre, donc toutes ses forces vives sont plutôt vers la défense du territoire, vers le combat pour la liberté, donc la négociation avec l'Union, ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il va falloir que beaucoup d'équipes autour de la table ukrainienne avalent tout cet acquis communautaire, c'est-à-dire toutes ces normes européennes, ces lois européennes qui valent aussi bien pour le climat que pour l'économie, que pour les libertés, l'égalité homme-femme, etc. Donc il y a toute une série de choses qu'il va falloir qu'ils les intègrent. Et c'est pour ça que ça prend du temps, puisque c'est divisé en chapitres. Et les premiers chapitres sont les plus difficiles, parce qu'on va parler d'état de droit, de lutte contre la corruption. Et donc toute cette mise aux normes prendra du temps. Donc pour l'Ukraine, c'est le début d'un processus, mais il voulait avoir ce ticket.
On sait ce ticket, justement, cette candidature de l'Ukraine et de la Moldavie, on reviendra sur la Moldavie dans un petit instant, mais cette candidature pose problème aux pays des Balkans, notamment la Serbie, le Monténégro, l'ex-Yougoslavie, tous ces pays qui sont, eux, coincés dans l'antichambre de l'UE depuis des années. Pourquoi, eux, leur dossier n'avance pas plus que ça? Et surtout, pourquoi ça les met en colère que l'Ukraine puisse bénéficier de cette procédure accélérée? C'est de la jalousie?
Oui, ils ont l'impression que parce que l'Ukraine est en guerre, qu'elle va passer devant. Alors moi, j'ai envie de dire à tous ces dirigeants des Balkans que d'abord il y en a deux qui ont des chapitres qui sont ouverts, c'est la Serbie et le Monténégro, et eux ils ont commencé le processus. Alors bien entendu, quand on commence le processus, ça va plus ou moins vite, mais ça dépend de la volonté des États. S'ils veulent aller vite, ça peut aller vite. La Croatie, ça a mis seulement 8 ans entre le moment où ils ont reçu le statut de candidat et le moment où ils ont intégré l'Union en 2013. C'est le dernier État membre qui est rentré dans l'Union, la Croatie, qui était aussi un ensemble de cette fédération yougoslave. Et deux autres viennent seulement d'entrer, l'Albanie et la Macédoine. Les négociations n'ont pas commencé avec eux, donc ils sont vraiment au début du stade. Alors, que l'Albanie se dise ça n'avance pas, moi je veux bien, mais ils sont au début du processus et bien entendu, ils ont beaucoup de réformes à faire. Et ces réformes sont difficile et bien entendu celles qu'on met sur la table au début sont celles qu'on voit comme les problèmes qu'on imagine nous vu de l'Ouest, des problèmes des Balkans, c'est-à-dire en effet la justice, l'état de droit, la lutte contre la corruption, contre la criminalité organisée, etc., etc. Et bien entendu pour eux c'est un changement radical, mais ils ont eu aussi leur ticket d'entrée, ce titre candidat, et j'allais dire c'est à eux de faire le gros du travail. Nous, on est là, l'Union européenne, pour les aider, mais...
On vous a perdu.
On ne va pas faire d'accélération.
On a beaucoup parlé de l'Ukraine. Un mot peut-être sur le dossier moldave qui a été accepté hier aussi. Pourquoi la Moldavie fait-elle partie de la même promotion que Kiev?
Alors, parce que d'abord, elle a fait aussi acte de candidature, parce que quand vous voyez où est située la Moldavie, qui est un plus petit pays, hein, c'est 44 millions d'habitants pour l'Ukraine, c'est moins de 5 pour la Moldavie. Ils ont d'abord beaucoup de réfugiés ukrainiens. Hein, on parle beaucoup des réfugiés en Pologne et en Roumanie, mais ils en ont. Ils sont aussi une ancienne république socialiste soviétique, et ils ont fait aussi le choix électoralement de porter alors une femme, Maia Sandu, à la tête du pays, avec une première ministre, qui sont toutes les deux pro-européennes. Et dans ce pays, il y a des forces russes, puisque une partie du territoire à l'est, la Transnistrie, a fait sécession, il y a une occupation par des troupes russes, et donc eux aussi se disent, et bien dans le climat très désagréable où se trouve la Russie aujourd'hui, nous aussi on a fait le choix de porter démocratiquement des pro-européens à notre tête, et on voudrait bien profiter. Et donc c'est pour ça qu'ils ont aussi eu le statut de candidat, ce que n'a pas eu la Géorgie.
On verra bien ce que ça donne pour la suite. Merci beaucoup Pascale Joannin d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous, au revoir.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
À 2 semaines des grandes vacances, si vous avez prévu de partir du côté de Marseille, le parc national des Calanques a officiellement ouvert hier son site de réservation pour s'y baigner cet été. En raison de la surfréquentation du lieu, son accès sera limité à 400 personnes par jour. 7 départements sont toujours en vigilance orange aux orages ce matin. L'Aveyron, le Tarn, mais aussi de l'Ardèche à la Haute-Savoie. Illustration de ces orages violents sur la seule journée d'hier, 34 000 impacts de foudre ont été enregistrés. Et puis l'Union européenne ouvre la porte à une adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. Les 27 ont officiellement accordé le statut de candidat aux deux pays hier. Une procédure qui pourrait prendre des années et sous conditions.
On termine avec votre partition, Omblin, et les projecteurs tournés vers un groupe culte profondément ancré dans le jazz, mais en étant résolument funky. Leur musique était à l'origine instrumentale, avant de devoir engager des chanteurs pour continuer d'exister. Il s'agit bien sûr, on l'entend, de Kool & The Gang.
Pour rappel, Kool, K-O-O-L, c'est Robert Bell, un garçon des rues avec son frère Ronald dans la grande banlieue de New York, un passionné de guitare basse qui fricote avec des gangs locaux. Lorsqu'il décide d'abandonner la violence, il adopte le surnom Kool pour affirmer ce changement de trajectoire. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me. Kool & The Gang, à l'origine c'est un groupe de jazz. Oui, qui a d'ailleurs changé de nom à mesure que leurs compositions se transformaient. Leur répertoire suit les évolutions de la musique populaire noire américaine, rhythm and blues, soul et bientôt funk, influencé par Sly and the Family Stone et surtout par James Brown.
1973 marque le point de départ d'une série impressionnante de succès.
Dans les clubs, les disques jockeys ne jurent plus que par Jungle Boogie, inspiré du très populaire Soul Makossa de Manu Dibango.
La bande de Robert Bell reste fidèle à son héritage musical funk.
Mais en plein avènement du disco, la deuxième partie des années 70 se déroule plutôt en dancey. Le groupe qui base sa musique essentiellement sur les instruments se voit dans l'obligation de changer de configuration. Kool & The Gang suit les conseils du manager des Jacksons, avec qui ils étaient en tournée, et ils décident d'embaucher un chanteur principal. Robert Bell raconte « On a commencé à prendre les choses au sérieux quand en regardant autour de nous, tous les groupes de funk de l'époque avaient un chanteur, sauf nous, James G.T. Taylor. Un habitué des scènes du New Jersey est recruté. En plus de sa voix, il arrive avec une bonne idée, faire une chanson sur les soirées filles du Studio 54, le temple du disco, repère des jet-setters new-yorkais. Oh yes, it's ladies night. Arrivé providentiel dans l'équipe de Kool & The Gang, c'est le talentueux producteur brésilien Emir Deodato. Ses arrangements mettent en valeur la voix de G.T. Taylor, contrairement aux anciennes productions de Kool & The Gang qui favorisaient les cuivres.
Les résultats, 3 disques de platine consécutifs.
Et entre autres, l'album Celebrate en 1980 avec en guise de locomotive l'hymne à la joie et à la bonne humeur Celebration, composé par l'autre frère Bell, Ronald. Et les 45 tours, le 45 tours va avoir droit à une publicité hors du commun et inattendue. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut retourner le 20 janvier 1981. Après 444 jours de captivité, les 52 otages retenus dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran, en Iran, sont libérés. Ainsi prend fin la plus grande crise de politique étrangère depuis la guerre du Vietnam. Et figurez-vous que les médias américains, pour célébrer cet événement, diffusent en boucle Celebration, la chanson festive consacre Kool & The Gang sur la scène internationale. Celebration, extrait de l'album Celebrate, paru en 1980, Kool & The Gang sur la route des festivals, et ils seront le 21 juillet dans les Bouches-du-Rhône à l'affiche du Martigues Summer Festive Hall.
Voilà. Merci Omblin.
Avec plaisir.
Génial, on était à fond hein, avec Kool & The Gang. Restez avec nous sur Europe 1, j'espère que vous êtes de bonne humeur et de bonheur avec nous et avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellent vendredi matin à l'écoute d'Europe 1.
Merci d'avoir commencé ce vendredi avec nous. Il se poursuit avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Fanny, bonjour
Omblin. Bonjour.
Bonjour mesdames.